Effectivement, Freud est séduit. Freud va continuer à rêver. C'est pourtant lui la première victime du rêve. Finalement, c'est lui qui est privé de ses cerises. Eh bien, pourtant, il s'émerveille. Il s'émerveille au point qu'il va en sortir un livre de 500 pages qui s'appelle « La Traumdeutung ». De toute manière, à ce moment-là, le rêve, quand il est raconté, devient incitation. Et devient incitation non seulement à réfléchir, mais incitation à imaginer. Donc à ajouter, pas seulement à expliquer, ou encore à créer, et pas seulement à comprendre. Le rêve n'est alors pas seulement une réalisation de désir, puisqu'il est raconté, il devient invitation au désir, invitation au voyage, stimulation à la créativité. Mais à ce niveau d'approche de la créativité, ça se complique, parce qu'il faut admettre un certain dédoublement du sujet. Je crois qu'il faut admettre un certain détriplement du sujet, si je puis le dire comme ça. Je pense qu'il faut qu'il y ait à la fois un rêveur, un rêve et un rêvé, qui sont tous les trois disposés à dépasser cette condition de dédoublement ou de détriplement qui permettrait trop aisément d'expulser un des termes comme symptôme. Ben, le rêve, ça n'est qu'un symptôme, c'est pas moi, ou je ne suis pas rêvé par mes rêves, c'est moi qui les rêve, etc. Et une des conditions nécessaires pour aller plus loin dans le problème du rêve et pour en faire quelque chose, c'est d'admettre qu'entre ces trois termes, il y a de nouveau un mouvement dialectique ou qu'il y a cette symbolique qui réunit ces termes, les trois, l'un avec l'autre. On doit être concerné par les trois aspects en question. Donc ce mouvement de va-et-vient, on pourrait dire que le rêve, en quelque sorte, serait le trait d'union entre le rêveur et le rêvé. Bon, maintenant, comme je crois que je ne peux, une fois de plus, que vous décevoir concernant l'essence de la créativité, puisque l'aspect mystérieux, l'aspect sacré ou l'aspect don de la créativité m'échappe nécessairement, même si métaphoriquement je pourrais en dire quelque chose, métaphoriquement par exemple on pourrait très bien comparer quelque chose de l'ordre de la créativité avec la mère qui accouche ou avec le père qui féconde ou avec l'enfant qui naît. On retrouve là les trois termes de cette symbolique dont je viens parler, où il s'agit qu'il y ait une union entre les trois pour qu'il en sorte quelque chose de nouveau, et non pas une désunion. On peut trouver là quelque chose de métaphorique concernant la créativité. Je pense néanmoins que je ne peux pas, qu'il m'est absolument impossible de savoir, de cerner de plus près ce don qui concerne la créativité. Et pour terminer, je vais vous parler toujours à propos du rêve, d'une démarche créative chez Freud qui me paraît intéressante parce qu'elle nous donne quand même des éléments encore concernant la créativité avec cette notion d'échange de symbolisme. Freud avait soigné une patiente qui s'appelait Irma. De nouveau, vous la connaissez tous, une patiente célèbre. Mais enfin, malheureusement, il faut bien que je recours à mes sources. Et il avait un peu terminé son traitement avec Irma d'une façon qu'il n'avait pas tout à fait enchanté. Il sentait que ce n'était pas très bien fait, que la solution qu'il avait proposée à Irma, elle ne l'avait pas acceptée. Et ils avaient interrompu ce traitement et il se faisait quelques soucis à propos de la suite. Et un beau jour, il rencontre son ami Otto. Otto est un jeune collègue qui a une vingtaine d'années de moins que lui, qui est médecin aussi. Et il se trouve que Otto lui raconte qu'il a été à une soirée mondaine où se trouvait Irma. Alors Freud ne peut pas s'empêcher de lui demander « Alors comment va Irma ?» Et alors Otto lui répond, en allemand, « Es geht hier besser, aber nicht ganz gut. » Bon, alors voilà une déclaration qui pour un psychanalyste est extrêmement satisfaisante. Que ça aille mieux, c'est vraiment tout ce qu'on peut souhaiter. Nous ne sommes pas des démiurges, on ne peut pas dire que les gens qui viendront chez nous sortiront avec Skateganggut et tout ce qu'il peut y avoir dans cette déclaration-là, mais ce que nous souhaitons, c'est que si Sgetir Besser, c'est formidable, que quelque chose s'est mis en train, que la personne a des possibilités d'aller dans un certain sens qu'on admet positif, puisque c'est Besser, et que par conséquent, elle a retenu de son expérience psychanalytique des possibilités qu'elle pourra employer dans un sens qui lui paraît satisfaisant. Donc c'est une réflexion qui peut paraître très satisfaisante. Par contre, ce que nous dit Freud, c'est que ça le fâche. Il n'est pas content. C'est une phrase anodine qui va avoir chez lui un effet dévastateur par la mise en question du psychanalyste. Ce qu'il dit, c'est ceci, je vous le redis en allemand, « Ich weiß, dass mich diese Worte meines Freundes Otto oder der Ton » In dem sie gesprochen waren, ärgerten. Autrement dit, ça l'a irrité. Il ne sait pas très bien si ce sont les mots ou si le ton. Si c'est le ton, c'est-à-dire si c'est les représentants ou si c'est l'affect. Donc Freud est irrité et son irritation devient d'autant plus compréhensible qu'il est actuellement, à cette époque-là, très isolé, que c'est l'inventeur indiscuté et indiscutable de la psychanalyse, que Otto est finalement un jeune galopin qui n'a que 20 ans de moins que lui et qui, à travers ça, met toute sa réputation en cause, et que d'autre part, Otto n'est pas spécialement psychoanalytical minded, c'est-à-dire qu'il y a une certaine ironie dans les phrases d'Otto, et il se trouve qu'à travers cette phrase, c'est non seulement le psychanalyste Freud qui se trouve blessé, mais c'est aussi l'homme, c'est Freud lui-même, qui se trouve blessé. Et finalement, ça va être son inconscient lui-même qui se trouve blessé et qui va en permettre la découverte. Alors, ce qui est intéressant, c'est devant cette blessure d'amour propre qui nous guette tous et toujours, de voir la suite des parades de Sigmund Freud qui aboutit à, pour moi, quelque chose de tout à fait créatif. Première chose qu'il fait, vous verrez le mouvement dialectique, j'écris l'histoire du cas. C'est-à-dire, il extériorise tout le problème, il fait ce que font les médecins, vite on va écrire une petite anamnèse. Pourquoi ? Pour justifier ce qui s'est passé auprès des autorités parentales. Au fond, le problème est déplacé. Il s'agit d'Irma, il s'agit des médecins, il s'agit de l'autorité, de la faculté, des professeurs, il s'agit... En fin de compte, des parents absents. Je vais me disculper auprès de ce que représentent ces parents qui ne sont pas là. Me dédouaner. Comprenez-moi, ça n'est pas de ma faute. Ça pourrait suffire. Ça ne suffit pas et on aperçoit le mouvement interne. Le mouvement inverse, l'intériorisation. Pas exactement l'intériorisation, mais l'extériorisation à l'intérieur de soi, comme corps étranger interne mais intime sous forme de rêve. Et en effet, la nuit, Freud rêve. Il rêve le rêve de l'injection faite à Irma. J'ai quelques minutes, je lis.
Ah, tout à fait.
Bon.
Un quart d'heure.
Bon, alors, en une demi-heure, je crois que j'y arriverai. L'injection faite à Irma, le voici. Il rêve. Un grand hall, beaucoup d'invités, nous recevons. Parmi ces invités, Irma. Que je prends tout de suite à part pour lui reprocher en réponse à sa lettre, vous voyez que maintenant il lui fait des reproches, de ne pas avoir encore accepté ma solution. Je lui dis, et il la tutoie, « Si tu as encore des douleurs, c'est réellement de ta faute. » Donc c'est pas de la mienne. Elle répond, « Ah, si tu savais comme j'ai mal à la gorge, à l'estomac et au ventre, cela m'étrangle. » Je prends peur. Ouais, Freud s'inquiète quand même, là, et je la regarde. Elle a l'air pâle et bouffie. Je me dis, « N'ai-je pas laissé échapper quelques symptômes organiques ?» Le recours à l'organicité. Je l'amène près de la fenêtre et je examine sa gorge. Elle manifeste une certaine résistance, comme les femmes qui portent un dentier. Là, il y a la coquetterie, le sexuel. Je me dis, pourtant, elle n'en a pas besoin. Alors, elle ouvre bien la bouche. Et je constate à droite une grande tache blanche. Et d'autre part, j'aperçois d'extraordinaires formations contournées qui ont l'apparence de cornets gris, de cornets du nez, et sur elle de larges escarres blancs grisâtres. On sent là, à travers ce récit étonnant, quelque chose de tout à fait dramatique. Au fond, Freud voit au fond de la gorge de cette femme quelque chose qui annonce la mort, quelque chose qui va complètement le dépasser. Il se retourne vers autrui. J'appelle tout de suite, aussitôt, le docteur M, qui à son tour examine la malade et confirme. Le docteur M n'est pas comme d'habitude, il est très pâle, il boite, il n'a pas de barbe. Mon ami Otto est également là, c'est le fameux Otto en question, à côté d'elle. Et mon ami Léopold la percute par-dessus le corset. Il dit qu'elle a une matité à la base gauche, et il indique aussi une région infiltrée de la peau au niveau de l'épaule gauche. Fait que je constate comme lui malgré les vêtements. Il y a là cet aspect hallucinatoire. Freud voit à travers les vêtements très bien la matité dans le poumon gauche. M dit, il n'y a pas de doute, c'est une infection. Mais ça ne fait rien, il va s'y ajouter de la dysenterie et le poison va s'éliminer. Voilà une banalité qui va trancher le problème avec la stupidité de M. Nous savons également d'une manière directe d'où vient l'infection. Mon ami Otto lui a fait récemment un jour, où elle s'était sentie souffrante, une injection avec une préparation de propyl, propylène, acide propionique, triméthylamine, dont je vois la formule devant mes yeux imprimée en caractère gras. Ces injections ne sont pas faciles à faire, et il est probable aussi que la seringue n'était pas propre. Donc Otto, chargé de tous les péchés, il fait des injections avec tout ce que ça peut signifier, il emploie des seringues dégueulasses, et la pauvre Irma en tombe malade. Eh bien, voilà un rêve qui aurait pu résoudre en quelque sorte le problème de Freud. Il aurait pu en rester là. Et ça n'aurait pas été le premier. Et du reste, les gens disent et reconnaissent que le rêve a en soi des qualités qui suffisent à résoudre certains problèmes. Ils citent notamment un certain Fichte, qui n'est pas Johann Gottlieb, qui doit être un psychologue de l'époque, mais non pas le philosophe, qui a dit, par exemple, Fichte parle dans le même sens de rêves complémentaires et les considère comme un des bienfaits cachés de l'esprit qui se guérit lui-même. Et je pense que c'est une phrase effectivement très profonde et très juste, et que c'est bien pour ça que tellement souvent, on se souvient seulement d'avoir oublié les rêves parce qu'ils ont accompli leur but, c'est-à-dire de... se guérir soi-même, mais alors là, l'aspect créatif nous échappe. Et en fait, il y a bien une certaine guérison de l'esprit. À travers ce rêve. Mais cette guérison n'est pas très efficace. Parce que effectivement, si Freud se guérit, Irma, elle, est effroyablement malade. Et, horreur, elle va probablement risquer de mourir de tout ce qui se passe dans sa gorge. D'autre part, il y a un autre aspect de guérison, c'est que ça va se guérir tout seul, grâce à la dysenterie. Mais c'est sûr que M est un idiot de penser que l'élimination due à la dysenterie produit la guérison. Et en fait, il y a une autre guérison de Freud, c'est qu'il ne s'agit pas de lui, puisqu'il s'agit de Otto, qui en plus de ça emploie des seringues sales et injecte sans précaution. Eh bien, Freud ne va pas se contenter de cette pseudo-guérison, mais il va se souvenir du rêve, précisément, et il va le travailler systématiquement avec sa méthode. Sa méthode intersubjective, où on retrouve que Freud, le rêve, le rêveur, le rêvé, tous se confondent, on ne sait plus qui est qui. Ça n'est ni extérieur ni intérieur, il y a quelque chose qui s'extériorise pour être repris à l'intérieur, etc. Il y a tout un va-et-vient symbolique à ce niveau. Et Freud est lucide. En conclusion, il dit, finalement, c'est une pseudo-déculpabilisation. Ce n'est pas une déculpabilisation, ce rêve. Et puis aussi, ils disent que souvent des gens n'arrivent pas à dire, mais c'est imaginaire. C'est insatisfaisant, et donc ils se critiquent. Mais il se critique quand même avec un certain humour, ce en quoi on peut trouver à travers l'humour peut-être une idée d'un début d'amélioration de quelque chose de neuf. Voilà ce qu'il dit par exemple de sa critique. Il est vrai que ses explications, qui concourent toutes à me disculper, ne s'accordent pas ensemble et même s'excluent. Tout ce plaidoyer, ce rêve n'est pas autre chose, fait penser à la défense de l'homme que son voisin accusait de lui avoir rendu un chaudron en mauvais état. Premièrement, il lui avait rapporté son chaudron intact. Deuxièmement, le chaudron était déjà percé au moment où il l'avait emprunté. Troisièmement, il n'avait jamais emprunté de chaudron à son voisin. Mais tant mieux, pourvu que seulement un seul de ces trois systèmes de défense soit reconnu plausible, et l'homme sera acquitté. À partir de là, je crois que Freud, ne voulant pas en rester là, a le choix entre deux voies, la voie éthique et la voie scientifique. La voie éthique, c'est résoudre le problème du choc des contraires, c'est employer les notions de bien et de mal, de propre, de sale, de saint, de malsain, avec l'aide de quelque chose de sacré, on pourra dire de la transcendance divine, si vous voulez, c'est-à-dire l'éthique doit aboutir sur une injonction, tu ne recommenceras plus. Finalement, comme les enfants. Et c'est en effet une bonne résolution que Freud doit prendre, mais il n'apprend pas, et vous savez qu'il critiquera aussi tous les problèmes d'éthique et de religion, notamment, à travers l'avenir d'une illusion, en essayant, à partir de là, de montrer leur origine enfantine ou infantile. La deuxième voie qu'il commence par choisir, c'est non pas de voir du bien et du mal dans ce rêve, mais à travers la voie scientifique, d'y voir des bizarreries et des absurdités. Et quand on trouve des bizarreries et des absurdités dans son comportement, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se fait soigner. C'est la voie scientifique. Eh bien, il y renonce aussi. Ça ne lui convient pas et il va en chercher une troisième. À partir de ces bizarreries, de ces absurdités, de ces étrangetés, il va décider de chercher lui et de trouver un autre sens, c'est-à-dire de les interpréter. Il refuse en quelque sorte la tenaille entre la morale et les sciences naturelles. Et interpréter, ce sera quoi ? Là, je vous lis. Il faudrait que je vous lise en français, parce que c'est trop long en allemand. Page 88, ce qu'il en dit. En français, interpréter un rêve signifie indiquer son sens. Le remplacer par quelque chose qui peut s'insérer dans la chaîne de nos actions psychiques, chaînons semblables à d'autres et d'égale valeur. Mais en allemand, il n'emploie pas action psychique, il emploie seelischen Aktionen. Et je crois que c'est important parce que même si la psychiatrie emploie le mot seel, le seelischen Aktionen, il y a quand même quelque chose de spirituel, de l'âme qui me paraît important dans cette définition de ce qu'il appelle l'interprétation du rêve. C'est donc à travers ça une sorte d'option moitié-moitié qu'il prend, qui est scientifique et éthique à la fois, ou qui est ni scientifique ni éthique, qui est d'ordre subjectif et d'ordre intersubjectif. Ni lui, ni le rêve ne sont lui-même. Le sujet Freud, c'est aussi bien le rêve étrange que le rêveur ou que le rêvé. Et le Gleichwertig qu'il emploie, de même valeur, signifie de la même valeur que celle qu'on a vue, c'est-à-dire de la même valeur que la valeur de culpabilité ou de déculpabilisation. Pour ne pas céder à ce problème d'être coupable ou pas coupable, il va essayer de trouver un autre sens qui sera au-delà de cette problématique morale, d'un autre ordre, et donc pas la pure négation de la culpabilité. Et il va découvrir alors beaucoup plus que ce à quoi il s'attendait. Par exemple, on peut dire qu'il découvre la projection, qui est une sorte de nouveauté. Je projette, c'est pas moi, c'est lui. C'est M le coupable, c'est Otto le coupable. Et il découvre aussi un autre ordre d'enchaînement de la métaphore, si tout le rêve est une métaphore, et surtout, qui reste systématiquement dans le domaine des seelischen Aktionen, donc de quelque chose qui n'est pas au sens du 19e siècle, médical et scientifique. Eh bien, que fait Freud après cette première découverte ? Eh bien, il se retourne une fois de plus à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il va chercher ? Il va fouiller la littérature, de nouveau, pour trouver de l'aide devant cette blessure d'amour-propre qu'il n'arrive pas à guérir, qu'ont écrit les maîtres à penser. Il va appeler au secours ceux-là même qu'il a éliminés dans son rêve. et qui l'a chargé de sa soi-disante faute. Et dans l'étude de la littérature concernant les rêves, il y trouve du reste des choses très intéressantes. Par exemple, il y trouve que le rêve est accomplissement de désir, de Grissinger. Ou bien, il y trouve ce que je vous ai dit tout à l'heure de Fichte, que le rêve est un bienfait de la nature qui nous soigne nous-mêmes. Mais aussi, il découvre à son insu une résistance formidable, une inhibition à savoir et à accepter ce qu'ont dit ces gens-là qui l'ont précédé. Et c'est en effet, nous apprend l'histoire, à la toute dernière minute, quand il a fini de composer sa Traumdeutung, qu'il se résoudra à quand même rendre hommage à ses prédécesseurs, à écrire le chapitre 1, qui est le chapitre inaugural du livre, où il cite tout ce qui a été dit par ses prédécesseurs. Autrement dit, ce qu'on peut dire, c'est que dans ses prédécesseurs, qu'est-ce qu'il y trouve ? L'autorité, il y trouve la sagesse de ses, des images parentales, il y trouve l'amour des parents, après tout Fichte lui donne de très bons conseils et de très bonnes paroles sur la guérison, mais que, ce qu'on pourrait dire, c'est que ni l'autorité, ni la sagesse, ni l'amour des parents ne suffisent pour transformer ou pour cicatriser une blessure d'amour propre. Il faut avoir recours à soi-même. Et alors, devant ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il se retourne une fois de plus à l'intérieur de lui-même, il réfléchit à son rêve, et il découvre dans son rêve le procédé même du rêve qu'il nous décrira plus tard, ou le piège même du rêve, que je pourrais dire comme ça, la revanche sur auto n'est finalement qu'une auto-revanche. C'est un piège. Mais il découvre aussi, et là c'est tout à fait stupéfiant, en passant, quelques pages bien modestes, mais qui se révéleront par la suite le fond même du livre, il découvre l'Œdipe à propos des rêves typiques. À propos des rêves typiques qui concernent les personnes aimées, dont on veut la mort, les examens qu'on rate alors qu'on les a réussis, et les rêves de nudité, vous savez bien, où on se promène en chemise devant un auditoire distingué. Eh bien, à propos de ces rêves-là, qui sont décrits comme dans un chapitre au milieu, il y a 3-4 pages sur l'Œdipe sur lesquelles il passe de manière tout à fait étonnante, puisque ce sera justement ça l'essentiel. Par exemple, il dit « Quand il s'agit d'interpréter les rêves typiques, le rêveur ne se rappelle ordinairement pas les idées qui l'y ont conduit, ou bien il se les rappelle d'une manière si obscure et si incomplète que nous n'en pouvons tirer aucun parti. » Et voilà ce qu'il écrit noir sur blanc, alors que tout le parti qu'il va en tirer provient justement de ces quelques pages. Il est saisi devant sa découverte, il est perplexe, il est étonné, et il écrit encore justement à propos de la tendresse des enfants qui est partagée avec des sentiments de haine et de meurtre des enfants pour leurs parents. Il écrit « Je ne crois pas que les névropathes se distinguent en cela des individus normaux. Il n'y a là aucune création nouvelle, rien qui leur soit particulier. » Et à travers ça, justement, il est en train de découvrir quelque chose qui dépasse de loin toute la problématique entre la symptomatologie et le normal, donc la problématique proprement scientifique et médicale. Aucune création pathologique. Il découvre l'Œdipe, donc dans ses phrases, et en même temps, il est aveuglé. C'est obscur, il n'y voit rien, dit-il. Et il cite Sophocle, le vers de Sophocle, mais où sont-ils ? La terre est vaste, comment retrouver la piste d'un vieux crime ? C'est là qu'en effet, il découvre quelque chose dont il ne voit plus rien, il est perdu, il ne peut pas retrouver quel est ce crime qu'à travers les enfants, il pressent les enfants et leur haine pour les parents, et réciproquement, l'inverse aussi. Eh bien, pourtant, malgré cette obscurité, ce qui est étonnant, c'est que la méthode porte ses fruits, et que quelque chose se passe à son insu, parce que c'est dans ces phrases, dans ces deux, trois pages-là, qu'il raconte, qu'il rêve une fois de plus en y pensant à Otto. Et justement, dans cette ébauche de perspective édipienne. Je ne vous dis pas le rêve, mais le rêve, c'est ça, il rêve qu'Otto a mauvaise mine. Et qu'est-ce qui se passe dans ce dont il parle à propos de cet Otto qu'il a tellement blessé ? Il y a un déplacement qu'on voit très bien dans les phrases, mais que Freud ne parle pas, de son humeur, de ses émois, il passe de l'ironie à la tendresse, à travers l'humour. Il dit, mais ce pauvre Tho, finalement, c'est un brave garçon, il est bien gentil, et il dit, il semble que sa destinée soit d'être maltraité dans mes rêves. Et là, soudain, on voit que ce personnage qu'il a tellement cruellement blessé devient quelqu'un de très gentil à qui il applique un problème de destinée, le destin d'Édipe. Et la destinée, c'est qu'il soit maltraité dans ses rêves, mais que finalement, il n'est pas si méchant que ça. Autrement dit, sa fureur, son aveuglement ou son irritation, son ärgerlich contre Otto pour sa petite phrase, la petite phrase d'Otto, est en train de se muer en une sorte de commisération. Bravo Otto, ma blessure n'est pas si dramatique que ça. Et puis, une fois de plus, de l'intérieur, il se reprécipite à l'extérieur, il va extérioriser l'ensemble de son problème et il va écrire le chapitre 7 de la science des rêves. Processus, psychologie et processus du rêve. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en écrivant ce chapitre, il s'y intègre lui-même. C'est un chapitre qui concerne tout le monde et qui concerne par conséquent à la fois Freud et Irma et Otto. Nous sommes tous dedans, puisque c'est un chapitre qui est par essence applicable à l'être humain en général. Si la théorie les englobe, si elle englobe Freud, Irma, Otto et tout le monde au même titre, de ce fait, la théorie les absout, puisqu'ils sont tous dans le même bain, on pourrait dire. Et à ce moment-là, il y a de nouveau une sorte de guérison, mais un peu miraculeuse, puisque à la fois Otto, Irma et Freud s'en trouvent mieux. Et là, il faut souligner au passage donc le danger et le pouvoir de la théorie, en l'occurrence c'est un bon pouvoir, puisque ce serait un pouvoir bénéfique tout au moins pour Freud, c'est évidemment le danger de l'affadissement de la vie affective par sa neutralisation. Chacun domine du ou bénéficie de pouvoir dominer sa vie affective en théorisant, mais à la fois chacun risque de perdre quelque chose de ses possibilités de création. Alors ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'à travers ce mouvement de va-et-vient, Freud ne perd pas quelque chose de ses possibilités de création en dominant sa vie affective, mais précisément il crée, puisqu'il crée un ouvrage qui est resté à la base de la psychanalyse actuelle, et un ouvrage qui porte justement les caractéristiques de la création dont je vous ai parlé au début, car non pas comme tant de livres dont on a oublié les auteurs, il se trouve que dans ce livre-là, on n'arrive pas à le dissocier de Freud. Il y a là un mouvement dialectique, une sorte d'échange symbolique qui est actuellement caractéristique de la psychanalyse, où la création n'est pas encore arrivée à se détacher du créateur et à laisser tomber le créateur pour ne pouvoir faire foi que de ses qualités intrinsèques. Eh bien, tous ces mouvements de va-et-vient ont en effet abouti à un livre qui est à la base de ce que je vous ai dit, qui s'appelle « La Traumdeutung » ou « La science des rêves ». C'est l'objet de sa créativité. Et c'est une création qui gagne aussi une certaine autonomie avec ses qualités intrinsèques, mais qui conserve ce lien symbolique dont je vous ai parlé. Et dont Freud, une fois de plus, va tenter de se détacher, comme il va se détacher, tenter, comme il a tenté de se détacher de la blessure d'amour-propre causée par Otto et de son rêve. Il dit que c'est son enfant, et que c'est son enfant qui le déçoit. Notamment, il a été horriblement déçu parce qu'on n'en a vendu que 300 exemplaires en 5 ans, ce qui était vraiment misérable. Personne n'en a parlé pendant les 5 premières années. Ensuite, il dit aussi que c'est son enfant qu'il aime et que c'est un enfant qu'il critique. Il le critique parce qu'il a des phrases tortueuses, trop longues, c'est embrouillé. Et il sent qu'il aurait voulu y mettre beaucoup plus qu'il n'a mis là-dedans. Et puis enfin, il montre comment peu à peu son livre prend sa relève, prend la relève. Il en parle comme de quelqu'un qui serait devenu totalement adulte. Comme si le livre était détaché de son odeur. Et il dit par exemple dans une des préfaces à une édition ultérieure, Si sa fonction était d'offrir quelque information sur la nature même des rêves, il a maintenant le devoir, vous entendez, le devoir, maintenant, non moins important, de s'attaquer aux méprises systématiques réservées à cette information. Autrement dit, il délègue tout le problème dont il a souffert dans son livre. L'anthropomorphisme de sa création, je crois, signe encore, évidemment, les origines humaines de cette création et son lien avec son créateur. C'est un livre qui avait une fonction et dorénavant, pour Freud, c'est un livre qui a un devoir. Ben, je vais m'arrêter là.
Bien. Nous devons remercier vivement Olivier Fournoy pour cet exposé très riche et remarquable. Moi, je suis particulièrement content parce que Olivier a essayé de sortir du piège tout en tombant, parce que vraiment, elle nous a fait un exposé originaire et créatif. Donc, en essayant de démystifier la créativité, il nous a donné quelque chose de tout à fait de créateur. Alors, ceci dit, je ne veux pas prendre la parole. Moi, j'ai une foule de questions, mais n'étant pas égoïste, je laisse la place aux autres. Mademoiselle.
Concret.
Je sais pas, par exemple, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas intention dans le rêve, est-ce que la créativité implique intention, regarde quelqu'un d'autre,
toutes
ces choses que vous n'avez pas
abordées. Alors, je crois qu'il faut que je vous réponde d'abord sur un plan simplement modeste, c'est-à-dire que je n'ai aucune idée de ce qui peut se passer dans la tête des gens qui rêvent. Finalement, tout ce à quoi je suis confronté, c'est aux gens qui veulent bien me raconter leurs rêves. Ça me paraît absolument fondamental et c'est bien pour ça que je ne peux rien vous dire. Enfin, tout le monde peut vous dire des tas de choses sur le rêve en général, mais je crois que ce n'est pas du tout un domaine qui m'intéresse parce que je pense que ça sera toujours un domaine de l'invention. Par contre, le récit du rêve, oui, là, on peut dire certaines choses. C'est-à-dire, je crois que c'est quand même ce que je vous ai dit là, c'est que ça demande un effort considérable. Et là, il y a une notion d'effort qui me semble liée à la créativité. C'est peut-être une notion trop morale pour que je l'ai pas employée. Mais il y a sans aucun doute un effort de la personne nécessaire pour se dire, non seulement j'ai rêvé, je veux m'en souvenir, ça doit avoir une signification dans mon existence aussi bien que si j'ai bu un verre d'eau, pourquoi pas, c'est le même processus, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Et le second effort, c'est de se dire ça s'est passé en moi malgré moi. Et le troisième effort, qui est le plus difficile et le plus sujet à caution, c'est d'admettre que ce qui, dans le texte de notre rêve, nous paraît totalement étranger, viendrait quand même de nous. Et là, donc, il y a quelque chose d'intentionnel de ma part, mais je ne suis pas sûr que je vois juste. C'est-à-dire que dans ce qui nous vient dans nos rêves, qui nous est totalement étranger, je ne suis pas sûr que ça puisse être réductible à une intentionnalité, c'est-à-dire que ça puisse être réductible au signifié qui va tomber sur le signifiant. Et j'aurais quand même, des tendances, je ne sais pas comment vous les appellerez, à considérer qu'il y a quand même là quelque chose, même chez le rêveur le plus éclairé, qui lui échappe radicalement, c'est-à-dire quelque chose qui l'aliène, pour employer un mot, mais qui vient de l'intérieur de soi, et à quoi on peut difficilement échapper. que je mettrais sous le, ces vocabulaires, ces dominations de sacré ou de mystère ou de transcendant à l'intérieur de soi, quelque chose qui dont là je ne peux pas vous parler. Oui, alors là, c'est peut-être un domaine plus particulier, c'est le domaine de l'analyste, mais c'est sans doute que si vous établissez une relation de caractère intime et particulier avec quelqu'un, vous verrez que, indépendamment de l'analyse, en dehors, vos rêves vont concerner quand même le sujet qui vous préoccupe davantage. Et comme il est certain que dans l'analyse, on s'aperçoit assez vite que, à travers l'analyse, les rêves ont une signification que l'analyste nous aide à découvrir parce qu'on a une oreille compatissante, rien que ça peut-être déjà, pour nos rêves et qu'on peut établir des chaînons avec les choses qui sont passées dont on a parlé. Le rêve, ce qui est agréable et souhaitable dans l'analyse, prend une certaine importance comme indicateur et comme révélateur de certaines choses qui échappe totalement à notre vie consciente. Il y a donc là déjà quelque chose d'actif et de qui a une valeur en soi, indépendamment du deuxième stade, qui sera par exemple dans les termes de Freud de transformer le contenu manifeste en contenu latent. C'est-à-dire que là, on a besoin que on ne soit pas uniquement coincé entre notre division intérieure entre rêveur, rêvé et rêve, mais que quelqu'un d'autre puisse prendre la relève d'un de ces trois termes pendant que nous nous contentons de rester avec nos deux termes. Alors ça, il faut que vous demandiez aux gens qui s'occupent de créativité. Il faut que vous demandiez aux écrivains, aux rêveurs, aux artistes. Je crois que ce n'est pas du tout de... Qui, eux, peuvent alors faire une critique sur la valeur de la créativité, de la création. Ce qui est pas du tout de mon domaine, alors.
Et pourtant, quand même, il est de ton domaine, parce que tu, en récitant le rêve de Hermann, là, nous voyons le côté créateur du rêve, parce que tu as très bien dit, et j'étais très content quand tu as parlé de cette nécessité de l'existence d'un écart entre signifiant et insignifié pour qu'il y ait symbolisme et création. Parce que si on voit avec un œil créateur le rêve d'Hermann, on peut se demander pourquoi ce petit a rêvé de cerise, pourquoi il veut avaler la cerise. En psychanalyste, on peut... penser que les cerises, c'était une représentation substitutive d'avaler le sein de sa mère ou son père, enfin suivant du côté Eros ou Thanatos, mais justement pour que le rêve passe, pour que le rêve devienne création onirique, pour que le rêve devienne un gardien du sommeil, n'est-ce pas, le petit Hermann crée une métaphore, la cerise. Et en ceci, c'est une création onirique, symbolique, métaphorique, qui, d'une part, empêche que le rêve devienne un cauchemar, donc il ne se réveille pas, mais d'autre part, empêche que le rêve soit parfait, donc oublié. Alors, le reste de souvenirs de chaque rêve, que n'est ni cauchemar, ni rêve oublié, a une notion créatrice, et cette notion, je le vois, lorsque le rêveur a la capacité de faire un récit avec un écart entre signifiant et signifié. Moi, j'ai compris comme ça le côté créateur du rêve.
Oui, oui, mais enfin, alors j'ai l'impression de retomber dans le même piège, c'est-à-dire que s'il n'y a pas quelque chose qui nous échappe fondamentalement, si tu l'expliques comme ça, il y a une capacité créatrice, mais il y a aussi une capacité symptomatique. Et il n'y a pas la... Enfin, c'est toi qui l'as donné. Je dirais la sanction sociale et le lien avec le créateur pour que c'est une valeur de création. Moi, je crois que la valeur de création, finalement, c'est celle du dictionnaire. C'est tirer du néant. Et puis, finalement, seul Dieu peut tirer du néant. Vous pouvez entendre ce que vous voulez par Dieu. Mais alors, dans le fait que tu m'as posé ce problème, création ou symptôme, je suis pris de court quand je dois vous dire, bon, voilà une création, elle est faite comme ça. Et puis, maintenant, je vais tâcher d'apprendre à symboliser, à métaphoriser, à transformer mes rêves pour devenir créateur. Puis je deviens artisan, je construis des rêves. Et finalement, il n'y aura de sanctions devant mes rêves, si jamais ils étaient créatifs ou création, que par quelqu'un dont j'ignore l'existence, la société ou quelqu'un comme ça, qui dira, ben voilà, oui, ici, là, on estime que c'est une création, on n'estime pas que c'est un symptôme. Alors, je suis toujours pris dans la difficulté due à ce titre.
Anne Manierin.
Quand tu as associé créativité et connaissance,
oui.
Ça m'a fait penser aux idées de Merleau-Ponty qui dit que dans la création artistique, l'exécution précède la conception.
Tout à fait, oui. Oui, mais enfin, je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que le rêve n'est jamais créativité. Il n'est toujours que symptôme, en analyse avant tout, puisque qu'est-ce qu'on va faire ? On va toujours le prendre pour un contenu manifeste, et qu'on va se mettre à essayer d'y déceler le contenu latent et de le découvrir. Donc le rêve est pris comme symptôme de quelque chose d'autre. Quand on nous le raconte... on l'entend comme un rêve manifeste, donc comme quelque chose à travers quoi il y a ce cycle indéfini qu'on peut dire un cycle de création, à travers quoi on va en sortir quelque chose d'autre. Alors on pourrait voir par exemple la création dans le sens de d'une mise en mouvement. On ne sait pas d'où vient vraiment, on ne connaît pas les mécanismes, le ressort de la mise en mouvement, mais effectivement par opposition à symptôme. C'est-à-dire que ce rêve serait une mise en mouvement pour aller plus loin, pour déboucher sur sa remémoration, pour déboucher sur l'échange, pour déboucher sur de nouveaux rêves, etc. etc. Et puis, à un moment donné, à gauche et à droite, il y a quelque chose qui est créé, alors qui échappe totalement, à mon avis, à mon domaine, qui sera sanctionné comme création... par quelqu'un d'autre, je crois.
Qui veut prendre la parole ?
Oui.
Est-ce que vous pensez de faire la créativité ? Enfin, vous dites que le faire n'est pas créatif, mais si on pense que le faire, c'est une formation de l'inconscient, la conscience transtemporelle, notre trajectoire...
Je n'entends pas très bien. Si
intemporel.
Oui.
Dans ce cas, je crois que le rêve, c'est ce qu'il y a de plus créatif, parce que c'est ce qui s'oppose à la réalité.